On va aller ensemble dans 2 Corinthiens. On va aller ensemble dans 2 Corinthiens, puis Luc va nous... Luc, qui est un des pasteurs à l'église ici, va nous lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 9. Vous allez pouvoir le suivre à l'écran, mais on vous encourage toujours à venir avec vos Bibles, vos iPods, vos iPhones, vos Android, n'importe quoi, pour avoir la parole de Dieu. Ça aide énormément à assimiler, à comprendre, à entrer dans le texte, à plonger. Vous allez voir qu'on va, on va se promener pas mal dans le passage ce matin. Et simplement, en guise d'introduction, pour vous placer dans le contexte, dans ce passage-là, la lettre, 2 Corinthiens, d'abord, c'est une lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. Et il adresse différents sujets avec cette église-là qui, il y a des beaux côtés dans l'église, puis il y en a d'autres où il y avait besoin un peu d'instruction, des fois d'être repris un peu. Et il en vient au chapitre 8 et 9. Là, on va lire 9, mais au chapitre 8 et 9, il en vient adresser un sujet parce qu'il y avait une grande collecte, d'accord, de fonds qui avait été levée pour aider les chrétiens de Jérusalem qui étaient circonstanciellement, actuellement plus pauvres, dans des situations plus délicates, plus précaires que bien d'autres chrétiens à travers tout l'Empire romain. Et donc, il y avait une grande collecte qui s'est tenue sur plus d'un an. Et donc, les chrétiens de Corinthe avaient signifié, ils avaient dit, on a à cœur de donner. Quand vous allez être prêts, passez par chez nous, on va récolter des dons, on va donner ça, vous allez les donner pour aider les frères de Jérusalem. D'accord? Donc, ça, c'est le contexte. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre, mentionne, voici, j'envoie des gens pour récolter ces dons-là que vous étiez engagés à donner. Alors, préparez-vous, préparez ça dans la prière. Un peu comme je viens de parler tout à l'heure de l'offrande de l'action de grâce, préparez ça dans la prière, et puis on va venir pour ça. Mais dans ce passage-là, d'accord? Le passage est extraordinairement riche pour comprendre des concepts comme la générosité. Tout le monde parle de générosité. Dans la société, tout le monde parle de générosité. Il y a des gestes, des fois extraordinaires, qui sont faits de générosité. Mais qu'est-ce que c'est la générosité pour un chrétien? Comment est-ce qu'un chrétien aborde ça? C'est un passage très, très riche. Et derrière cette idée-là de générosité, il y a une certaine théologie des biens matériels. Comment un chrétien vit avec les biens matériels qui lui sont confiés? C'est un sujet super important et ça me fait vraiment plaisir de l'aborder avec vous ce matin. Avant d'aller dans la lecture, on va prendre un mot de prière, puis là, je vais comme casser le beat ce matin, d'accord? Mais vous allez comprendre pourquoi. Vendredi soir, il y en a plusieurs qui sont déjà au courant, il y a une grande église évangélique qui est à quelques kilomètres d'ici, l'église Nouvelle Vie. Vendredi soir, c'était leur activité jeunesse et il y a un drame qui est survenu, vous l'avez peut-être vu dans l'actualité passée, passé à travers les journaux, tout ça dans les derniers jours. Donc, il y a une jeune fille de la jeunesse de Nouvelle Vie qui est débarquée de sa voiture, qui a traversé la rue pour se rendre à l'église. Et il y a une dame qui ne s'en allait pas à l'église, qui est d'un certain âge. Je n'ai pas d'indice là, que c'est un cas d'alcool au volant ou des choses comme ça, mais il y a une dame qui a frappé cette jeune fille-là. Et lorsqu'elle a été conduite à l'hôpital, le décès a été constaté. Donc, Nouvelle Vie est dans tout ça. D'accord? Il y avait une conférence pour dames. Je parlais avec une sœur tantôt. Il y avait une conférence pour dames aujourd'hui. Ils ont annulé ça. Nouvelle Vie dans ce drame-là actuellement. Alors, avant d'aller dans la lecture de la parole, avant nous-mêmes de se pencher sur les Écritures, j'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans la prière, simplement prier pour eux. On peut imaginer. D'accord? On peut imaginer. Certains d'entre vous connaissez peut-être même la famille, tout ça. La mère était présente, elle venait de débarquer sa fille. C'est terrible. D'accord? On va aller dans la prière. Je ne vais pas faire mélodramatique, je veux juste qu'on puisse prier ensemble pour eux. D'accord? Père éternel, nos enfants sont précieux, Seigneur. C'est des trésors, c'est notre chair, c'est notre sang. Et en Église, Seigneur, chacun devient une perle précieuse qu'on apprend à aimer, qu'on apprend à connaître, qu'on veut voir grandir. Et il y a des drames, Seigneur, qui surviennent à un certain âge, qui font un certain sens, même si la mort ne fait jamais de sens. Mais cette jeune fille de 13 ans, Seigneur, ça fait aucun sens. C'est dramatique, Seigneur. Il y a plein de souffrances. Il y a une vague de souffrance qui est en train de frapper l'Église Nouvelle Vie, Seigneur, et plein de gens autour. Et Père, ce matin, on veut s'arrêter avant d'aller dans ta parole pour simplement amener cette Église devant toi, Seigneur. Amener cette famille devant toi, Seigneur. Amener la jeunesse qui est là, qui est en train de vivre le deuil. Seigneur, je connais pas la foi de cette jeune fille. J'espère le mieux, j'espère une foi en toi, glorieuse, Seigneur, j'espère qu'elle est actuellement dans le plus grand des bonheurs dans ta présence, mais derrière elle, Seigneur, restent des gens qui sont brisés par un drame. Je veux te demander, Père, de venir les accompagner par ton Esprit Saint, Seigneur. Seigneur, viens apporter la consolation que toi seul peux apporter. Viens relever, Seigneur. Accorde à chacun d'être là les uns pour les autres. Je pense à cette dame qui probablement, certainement, accidentellement a causé cette mort. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main vers elle aussi, Père, parce que je ne voudrais pas être à sa place. Et je te prie, Seigneur, qu'à travers ce drame, ton amour et ta grâce puissent s'étendre jusqu'à elle et que la gloire de l'Évangile, Seigneur, vienne l'atteindre elle-même, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. On veut la chérir et on veut la vivre pour toi à chaque instant, Père. Alors, ce matin, viens nous rencontrer dans ta parole. Et on te prie, Seigneur, de déposer tes regards, toute ton attention sur cette église actuellement et sur cette famille qui a été foudroyée, Seigneur, par un drame. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter à présent la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin, tiré du livre 2 Corinthiens, au chapitre 9, versets 1 à 15, et la version est la nouvelle édition de Genève. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 15. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais, en effet, votre bonté, votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts, comme je vous l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considérant, Sion, de ce secours dont ils font l'expérience et glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux.
Merci, Luc. Il y aurait énormément à dire sur ce passage-là. C'est un passage absolument extraordinaire, très, très riche. Revenez un petit peu avant avec moi, un peu plus tôt, dans la parole au début du chapitre 8, d'accord? Parce que là, quelque chose d'important, simplement pour se remettre en contexte. Les versets 1 à 4, je les lis rapidement. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Retenez bien ceci, j'y reviens. « La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités, générosité. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Il semble qu'une des manières que l'Esprit de Dieu travaille dans le cœur d'un chrétien, un fruit de l'œuvre de l'Esprit en nous, une manifestation concrète de la grâce transformatrice, d'accord? Quand je crois en Dieu, quand je crois en Jésus-Christ, j'expérimente la nouvelle naissance et la grâce de Dieu se manifeste non seulement dans le fait que j'ai été gracié, Dieu m'a pardonné, m'a fait grâce, mais elle continue à se manifester en moi au fur et à mesure que l'Esprit-Saint est en train de me transformer à l'image de Christ. Et l'apôtre Paul, ici, dans le langage qu'il est en train d'utiliser, au verset 1, il dit « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Des fois, on ne comprend pas l'usage que Paul fait du mot « grâce ». Ça semble être partout. Ils ont insisté pour avoir la grâce de pouvoir, le privilège de pouvoir participer. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée par leur générosité. Et Paul est en train de parler ici d'une manifestation, d'une œuvre qui s'explique mal sans l'intervention divine. Paul est en train de dire, j'ai observé chez ces chrétiens-là quelque chose qui s'explique mal sans l'Évangile. Je vois des êtres humains qui se comportent de manière pas tout à fait naturelle, dans une certaine mesure surnaturelle. Et c'est ce qui fait que Paul va parler d'une manifestation de la grâce de Dieu. Ça s'opère de mille et une manières chez les chrétiens. Ça s'opère dans le pardon qu'on va accorder à quelqu'un qui nous a offensés. Ça s'opère dans le renoncement à soi où je vais me donner pour quelqu'un. Ça s'opère aussi dans une générosité parfois extraordinaire, comme c'est le cas dans ce passage-là. Ce matin, on va parler ensemble de la grâce de donner, la grâce de partager. Partager ma voiture quand je ne m'en sers pas parce que je pars en vacances, puis on a deux voitures, puis je prête ma voiture pendant toutes mes vacances. Prêter ma maison à des gens qui en auraient besoin pendant mes vacances. Il y a Airbnb, mais il y a d'autres choses aussi. Je peux aussi décider de prêter ma maison, tout simplement, partager ma nourriture pour aider des gens, donner de mon argent littéralement à la mission de l'Église, à l'Église pour contribuer au financement, au bâtiment, ou peu importe, à des missions que l'Église est en train de supporter. Donner de l'argent pour supporter des causes humanitaires, et il y en a à l'infini des besoins, d'accord? Mais dans la perspective chrétienne, ce que Paul me dit ici, c'est que c'est une grâce, un privilège de pouvoir donner pour le chrétien, et c'est une manifestation de la grâce transformatrice de l'Évangile lorsqu'un chrétien se met à donner. C'est une manifestation d'une œuvre profondément spirituelle qui est en train de se passer en lui. Et c'est un gros sujet au Québec. Probablement vous avez entendu à travers les années, on dit généralement que les Québécois donnent moins que les Canadiens. En dons enregistrés avec des reçus pour fin d'impôt, on va parler de 260 $ en moyenne par Canadien, puis on va parler de 130 $ en moyenne pour les Québécois. Certains commentaires sont sortis après, puis ils ont dit, oui, peut-être que les Québécois donnent plus sans reçus pour fin d'impôt. C'est possible. Mais les sociologues qui étudient ça concluent quand même toujours que les Québécois donnent moins, et c'est pas parce qu'on est la province la plus pauvre du Canada, d'accord? Je crois que c'est davantage une culture. Ça fait partie de notre culture. C'est quelque chose où les Québécois sont appelés à grandir. Et personnellement, ça vient me chercher davantage comme pasteur parce que j'ai cet écho-là de la culture québécoise en général à l'extérieur de l'Église, mais j'ai celui à l'intérieur de l'Église. Il n'y a jamais une année qui passe sans que je parle avec des chrétiens et que j'entende à travers les commentaires qu'ils vont me faire que c'est normal que l'Église québécoise soit supportée par le reste du Canada, par exemple, ou qu'il y ait des dons qui viennent des États-Unis. Et j'entends ça constamment, ce discours-là, qui n'est pas erronée dans le sens que le champ missionnaire au Québec est énorme. La population chrétienne au Québec est infime, d'accord? Et donc, il y a lieu de recevoir du soutien missionnaire. Mais ça va se transposer même dans une église grande comme la nôtre où je vais entendre cette idée que ça va comme de soi qu'on devrait recevoir de l'argent de l'extérieur. Puis, comme pasteur, le souci qui me vient dans mon cœur, c'est à quel moment est-ce qu'on va entrer dans une maturité chrétienne? À quel moment est-ce que les chrétiens québécois vont se dire « On a reçu beaucoup, maintenant il faut entrer dans une plus grande maturité. » Puis, je ne veux pas vous offenser, j'y vais avec mon cœur. J'ai l'impression d'entendre une espèce d'attitude de colonisés qui ont besoin encore de mère patrie qui est en train de les nourrir constamment. Et je peux comprendre si je suis en train d'implanter une église puis qu'on est 10 chrétiens dans l'église en implantation. Mais sérieusement, ici, ce matin, il y a 2 à 3 fois plus de gens, d'accord, dans notre église que dans l'église moyenne américaine. Est-ce que vous me suivez? Aux États-Unis, une église évangélique a en moyenne 60 à 80 personnes qui la composent, cette assemblée-là. D'accord? Il y a des méga-churches. Il y en a une juste à côté, on a prié pour une tantôt. Des méga-churches, des églises qui dépassent 1000 personnes, 1500 personnes. D'accord? L'église moyenne américaine, 60 à 80 personnes. Alors, si nous, ce matin-là, on va être dans le 400 personnes à peu près, on n'entre pas dans cette maturité-là, moi, j'ai un souci de nous voir grandir ensemble. Et je crois personnellement. Je crois parce que ça va faire 20 ans que je suis pasteur ici. D'accord? Je crois que Dieu veut faire une belle œuvre, puis les chrétiens du Québec peuvent grandir en maturité, peuvent devenir généreux, puis quitter ce stade-là où on sent qu'on a besoin constamment d'être supporté, puis grandir en maturité, puis en générosité, puis être des modèles pour les Québécois. Voici un autre endroit où on est appelé à inspirer les gens de la culture environnante à travers ce que l'Évangile nous apporte comme changement. Longue introduction, j'en suis conscient, mais j'adresse aussi un sujet qui est délicat, d'accord? Dans cette série-là, le risque de donner, on a parlé la semaine dernière de donner notre cœur parce que tout commence là. Cette semaine, on parle des biens matériels. La semaine prochaine, on va parler plus de donner à travers notre temps, à travers nos dons, à travers notre appel. On va parler de donner la parole de Dieu. Puis là, on adresse ce sujet-là qui est délicat. J'étais en train de me préparer, puis je me disais, il y a 3 raisons pour lesquelles vous pourriez être nerveux, mal à l'aise d'entendre le pasteur parler d'argent, de biens matériels ce matin. La première raison qui serait tout à fait légitime, c'est tous les scandales qu'on entend. D'accord? La vérité, c'est qu'il y en a des scandales où il y a des pasteurs qui sont des fraudeurs, qui sont des voleurs. Puis à chaque année, on en a des scandales qui sortent un peu partout dans les actualités. C'est la réalité. D'accord? Et puis, quand on est dans une église, bien, moi, j'ai le privilège d'ouvrir la parole de Dieu puis de m'adresser à votre cœur. S'il y a un endroit où il y a une latitude pour manipuler les gens, c'est lorsqu'à chaque semaine, tu es appelé à quelque part à aller jouer avec une corde dans leur cœur. Vous comprenez? Et donc, il y a une latitude, il y a une possibilité de devenir un manipulateur. Puis c'est pour ça qu'on trouve les affaires les plus effarantes dans des églises où vous avez des escrocs qui vont voler. Puis donc, peut-être que vous avez ces craintes-là. D'où l'importance d'aller adresser ça. Si vous êtes là, si ça vous prive de donner généreusement, adressez cela. Demandez à rencontrer Luc qui était ici, qui est le trésorier. Demandez à rencontrer le comité de finances. Demandez des livres. Venez aux réunions d'affaires. Venez à la réunion annuelle. Posez des questions. Demandez comment les salaires sont définis. Venez chercher mes clés de char. Allez vous promener avec mon auto. N'importe quoi, mais adressez ça. Vous comprenez? Parce que lorsque vous allez annoncer l'Évangile à des gens à l'extérieur, vous allez avoir ce malaise-là. Donc, la deuxième raison pour laquelle vous pourriez être nerveux et mal à l'aise ce matin, c'est peut-être que vous vous dites, « Oui, mais il y a peut-être quelqu'un qui est ici pour la première fois. Il n'aurait pas fallu qu'il vienne ce matin, le pasteur parle de fric. Ça tombe comme mal, tu sais. Il n'en parle pas souvent, je te le dis, ça n'arrive pas tellement souvent. Non, si tu reviens la semaine prochaine, il n'y a pas grand-chance. Ah, l'offrande, l'action de grâce. Reviens dans un mois. » Reviens dans un mot, on n'en parle pas souvent, d'accord? Mais en même temps, si je ne peux pas parler de fric et de biens matériels autant que la parole de Dieu en parle, comment je vais parler d'une des plus grandes idoles des Québécois? Comment on va annoncer l'Évangile si on ne peut pas aller à cette intersection-là aussi, où l'Évangile vient rencontrer cette question-là? D'accord? Alors, je comprends les craintes, je comprends. La troisième raison pour laquelle vous pourriez être mal à l'aise, c'est possiblement que les biens matériels, l'argent, c'est votre deuxième Dieu, c'est Mammon. Et ça, c'est possible que vous soyez mal à l'aise avec ce sujet-là parce que ce n'est pas un sujet avec lequel vous êtes à l'aise. Est-ce que je donne-tu pas, je suis criblé de dettes, je n'arrive pas à gérer mon budget, je ne suis pas un modèle, je ne voudrais surtout pas qu'on me regarde là-dedans. Raison de plus pour qu'on l'adresse. Parce que vos enfants sont en train d'apprendre c'est quoi un chrétien en vous regardant gérer vos sous, parce que les gens autour de vous le font, parce que quelqu'un qui a adressé cette idole-là dans sa vie, puis qui a remis ça à Dieu, puis qui a grandi dans ça, enseigne là-dessus, est à l'aise d'aller dans ce domaine-là, peut être un modèle pour les autres, d'accord? Et donc peut-être que c'est pour ça que vous pouvez être mal à l'aise avec ça ce matin. Et c'est important qu'on l'adresse. C'est important qu'on l'adresse si on veut grandir en maturité. Alors ce matin, on va voir ensemble que donner par devoir religieux n'est pas chrétien. Donner est un geste de reconnaissance, de générosité et de foi. Je répète ça. Donner par devoir religieux n'est pas chrétien. Donner est un geste de reconnaissance, de générosité et de foi. Premièrement, la semaine dernière, on a abordé toute la question de se donner en montrant qu'en réalité, le chrétien apprend à se donner lui-même en regardant à la Sainte Trinité, au Père, au Fils, à l'Esprit, à l'œuvre que Dieu a fait à travers l'Évangile en donnant son Fils, le Fils qui s'est donné lui-même, l'Esprit qui nous a été donné. On va puiser en Dieu tout ce qu'on a besoin d'apprendre pour apprendre à donner notre cœur. Et lorsque je n'arrive pas à donner mon cœur, je dois retourner à Dieu pour qu'il m'enseigne à donner mon cœur. Et c'est la même chose ici. En réalité, pour un chrétien, lorsqu'il donne, il est en train de répondre à la générosité de la croix par reconnaissance. Lorsqu'un chrétien donne, il est en train de répondre à la générosité de la croix par reconnaissance. Et ça, ça m'amène à dire tout de suite, à partir de ce passage-là, donner pour un chrétien ne doit jamais être un devoir religieux. Je ne prends pas le terme religion dans le sens où Jacques l'utilise dans sa lettre, d'accord? C'est un autre sujet. Mais vous comprenez ce que je parle lorsque je veux dire devoir religieux. Regardez bien ce que Paul dit ici dans 2 Corinthiens 8, 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Le mot que je veux souligner ici, c'est volontairement. Ils ont volontairement donné. Que chacun, dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce que Paul fait dans 2 Corinthiens 8 et 9, c'est qu'il va ancrer, puis on va le voir un petit peu plus loin, il va ancrer toute sa compréhension des dons matériels dans l'Évangile. Et donc, Lorsque je comprends que c'est l'Évangile qui m'apprend à me donner, puis à donner de mes biens, puis à partager, puis à donner de mon temps, lorsque je comprends que c'est à la croix que j'apprends ça, à ce moment-là, cela ne fait plus de sens d'aucune manière de donner comme un devoir religieux. Moi, je n'ai pas été sauvé en accomplissant mon devoir religieux. Comprenez? Je n'ai pas gagné mon ciel. Je ne travaille pas à gagner mon ciel. Je ne peux pas mériter mon salut. C'est impossible pour moi de le faire. Si j'ai cette confiance dans mon cœur que je suis sauvé, c'est parce que Dieu a opéré une œuvre de grâce envers moi. Ce n'est pas par un devoir religieux en montant des marches à genoux puis en me faisant crucifier à chaque année ou en me flagellant que j'ai gagné mon ciel. C'est Christ qui l'a gagné pour moi, le ciel. Et il m'a été donné. Et donc, si pour un chrétien donner est ancré dans l'Évangile, c'est là qu'on apprend ça. Cela ne fait aucun sens pour un chrétien de donner par devoir religieux. Ce qui va amener Paul très, très loin. Lorsque Paul commence à servir une église où il sent qu'il y a un manque de maturité, puis les gens se sentent contraints, commencent à regarder qui donne combien, qu'est-ce qu'il est en train de donner, puis ça devient une espèce de game pour voir, puis là, commence à être toujours suspicieux pour dire, ah oui, c'est ça, faut donner pour que les pasteurs puissent vivre de ce salaire-là, puis tout ça. Paul dit, oubliez ça! Jamais de la vie. Chaque fois que Paul arrivait devant une église comme celle-là, il disait, oubliez ça, récoltez des dons, donnez-les à qui vous voulez, vous ne me donnerez pas une scène en salaire, je vais aller travailler. Parce que vous n'êtes pas en train de donner comme l'Évangile nous enseigne à donner. Et Paul préférait toujours travailler de ses mains lorsqu'il était exposé à une église qui ne comprenait pas que donner est un acte de reconnaissance envers l'Évangile. Et donc, il y a des situations où Paul acceptait le soutien d'une église, puis il y a d'autres situations où il refusait le soutien d'une église, et c'était sur la base de cette compréhension-là du don. Si vous voyez ça comme un acte religieux, un devoir, sujet de gloire personnelle devant Dieu pour dire « je suis un grand donateur », donnez pas. Puis honnêtement, 100 fois, je vous le dis, 100 fois, si c'est comme ça que vous donnez, arrêtez de donner tout de suite. Donnez pas à l'Église si c'est comme ça que vous donnez. Je sens que je vais avoir des conversations tantôt avec le trésorier. Arrêtez de donner si c'est comme ça que vous donnez. Je préfère aller travailler 100 fois, puis les pasteurs ici vont le préférer 100 fois que si vous donnez comme ça. Parce qu'on va enseigner toutes sortes de choses fausses sur l'Évangile, d'accord? Ce n'est pas un devoir religieux dans ce sens-là. Paul va plus loin, il dit, « Je vous envoie ma lettre d'avance parce que vous étiez engagés à donner. Puis je ne voudrais pas que les émissaires qui viennent pour recevoir vos dons vous trouvent comme mal pris d'être capable de donner. Puis là, que vous viviez toutes sortes de luttes dans votre cœur parce que vous dites, « Ouais, mais là, on avait dit qu'on allait donner. Si on n'est pas prêt à donner, de quoi on va avoir de l'air? Fait que là, OK, on va renoncer à ça. Puis là, ouais, mais on avait prévu qu'on allait faire ça. On s'en allait en vacances cette année, puis on servait de ça pour ça. » Puis là, il dit, « Ça va devenir un geste d'avarice. Ça ne sera plus avec générosité. Il va y avoir toutes sortes de luttes charnelles dans ce don-là. Il n'y a plus de joie et de liberté qui accompagne ce don-là. » Donc, il leur dit, non, c'est quelque chose qui se fait avec une grande liberté, avec une grande conviction, avec une œuvre profonde et mature de l'Évangile dans le cœur. Et donc, ce que Jésus enseigne sur le don, c'est que le don, ça se passe entre Dieu et moi. À partir du moment où donner devient un sujet de gloire, j'ai déjà eu ma récompense. C'est l'applaudissement des hommes. Fait que j'étais mitigé. Il y a quelques semaines, on a un personnage public au Québec qui est super le fun, qui a posé un geste extraordinaire. D'accord? Piquet-Souban, vous avez vu ça? Piquet-Souban annonce qu'il va donner à un hôpital comme 10 millions sur 7 ans. Puis honnêtement, c'est inspirant. J'étais comme, je suis tombé là-dessus, puis j'ai dit, ah, wow! Quel bel exemple, quel beau modèle. Je sais, le gars, il a plein d'argent, tout ça. Tu comprends? Vous calculerez quand même. Vous calculerez quand même, il y a tout un sacrifice là. Ce n'est pas commun au Québec de voir ça. Mais j'étais un peu mitigé parce que je me disais, ouais, le seul problème, c'est la photo. Le seul problème, c'est que ça s'est fait comme ça publiquement. J'aime ça quand je vais dans des salles de théâtre, puis des grands organismes qui ont reçu beaucoup de donateurs, puis ça m'avait frappé lorsqu'on était allé visiter le domaine Forget, il y avait une salle qui était là, puis il y avait la liste des donateurs. Puis il y en avait un grand nombre où il n'y avait pas le nom. Il y avait une plaque, puis il n'y avait pas de nom. Monsieur, Madame X ont donné. Puis ils étaient dans ceux qui avaient donné le plus parce que c'était comme en ordre d'eux, mais eux autres ne voulaient pas être nommés. Peut-être qu'ils ne voulaient pas être sollicités. Mais j'ose espérer que c'était plus spirituel que ça. D'accord? Qu'il ne voulait pas en tirer gloire. Et donc, je ne veux pas dénigrer tout ce que Souban a fait là, pas du tout. C'est vraiment généreux, puis c'est inspirant, puis je pense qu'on a besoin d'exemples, de modèles. Paul lui-même le fait. Paul lui-même va parler de ce don-là. Il va dire, je refuse du soutien, je préfère travailler. Donc, il est en train de parler de sa générosité à lui. Mais en même temps, pour le chrétien, c'est quelque chose de super important. C'est pour ça que ça se passe entre Dieu et moi, ce que je donne. C'est parce que ce n'est pas un devoir religieux. Il n'y a pas de mérite à donner. Je ne gagne rien lorsque je donne. Je gagne la joie de donner, la joie d'avoir un cœur reconnaissant. Ce n'est pas un sujet de valorisation personnelle. Ce n'est pas un sujet de comparaison. C'est quelque chose qui se passe entre Dieu et moi. Donc, moi, je n'ai pas d'affaire à savoir qui donne combien dans l'Église, vous comprenez? Si je le sais pour 2-3 personnes, c'est parce qu'ils sont venus me voir, puis là, ils voulaient plein de conseils, puis pouf, ils mettent ça sur la table. Arrête. Puis là, ils veulent des conseils, vous comprenez? Mais je n'ai pas d'affaire à savoir ça. C'est quelque chose qui se passe entre Dieu et moi parce que c'est un acte Pour le chrétien, c'est un acte d'adoration, c'est un acte de reconnaissance. Et Paul nous enseigne qu'on va puiser cette générosité-là à la croix. Regardez 2 Corinthiens 8, versets 8 et 9. « Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Donc, Paul est en train de parler d'argent, puis il s'en va puiser dans l'Évangile pour dire « Christ avait tout ». Il avait toutes les richesses concevables. Il était dans la gloire avec son Père. Il s'est entièrement dépouillé. Il a donné toutes ses richesses pour notre salut. C'est pour ça que je vous dis, pour un chrétien, plus je grandis dans l'Évangile, plus ma générosité grandit. Dans tous les aspects de ma vie. Dans tous les aspects de ma vie, à travers mon temps, mes biens, n'importe quoi, le renoncement à soi, le pardon que je vais donner devant celui qui m'offense, c'est un cœur généreux qui est le fruit d'une méditation quotidienne, d'une appréciation de ce que Christ a fait pour nous. Et donc, le chrétien donne non seulement pour aider quelqu'un qui est dans le besoin, mais il n'y aurait personne à aider qui serait encore en train de donner. Parce que la motivation première pour donner, ce n'est pas le besoin, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance envers l'Évangile de Jésus-Christ. La générosité pour un chrétien découle de l'œuvre de Christ à la croix. C'est vraiment un acte de reconnaissance, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. Voyez-vous, Paul qui dit une manifestation de la grâce de Dieu dans nos cœurs. La grâce de la générosité. Et ce que Paul nous enseigne après ça, c'est qu'il va nous dire que je donne, dans le fond, pour partager parce que Dieu m'a donné. D'où l'idée que vous allez entendre des fois lorsqu'on prie avant de prendre des offrandes, des choses comme ça, on va dire des fois « redonner ». Parce que pour un chrétien, je crois que Dieu est souverain, puis si j'ai un emploi, c'est une grâce de Dieu. Si j'ai la santé pour travailler, c'est une grâce de Dieu que Dieu me fait. Si j'ai des surplus, c'est une grâce de Dieu. Si j'ai un salaire qui me permet de pourvoir aux besoins de ma famille, puis on peut avoir de l'espace pour des loisirs, c'est une grâce encore plus grande de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et ce que l'apôtre Paul nous enseigne, c'est qu'avec ça vient le privilège de prendre soin d'autres personnes autour de nous, de redonner. Et c'est vraiment un privilège. 2 Corinthiens 8, 13 à 15, « Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. » Alors là, on passe à une autre dimension. Je donne parce que j'ai puisé dans l'Évangile, j'ai appris de la générosité de Christ, mais je donne parce qu'il y a des gens autour de moi qui ont moins que moi, puis j'applique une règle d'égalité, de partage. Mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. On s'en va puiser dans l'Ancien Testament, je n'ai pas le temps d'aller ce matin. Mais je suis appelé à partager. Je suis appelé à prendre soin. Je suis appelé à aller vers les frères. Et c'est ça qu'on fait lorsqu'on a la boîte d'entraide. Il passe presque pas une semaine sans qu'il y ait des gens dans l'Église qui manquent littéralement de nourriture. Puis là, on est informé de ça. Puis je sais qu'il y a plein d'entraide qui se fait naturellement. Vous n'avez aucune idée combien il y a de gens actuellement dans l'Église qui sont sans emploi et certains d'entre eux n'ont aucun autre recours. D'accord? Il n'y a pas de chômage qui rentre. Il n'y a pas d'autres revenus qui rentrent. Des fois, ça dure des mois. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'il y a un fonds d'entraide, c'est pour pouvoir partager. C'est pour ça que l'Église de l'Espoir aide des missions à l'étranger à implanter des églises. C'est pour ça qu'il y a un projet comme à Cuba pour aider justement une église là-bas dans son implantation, dans sa construction, d'accord? Parce qu'on a à cœur de partager de notre surplus, d'aider. Et donc ça devient un privilège, ça devient une grâce pour nous de le faire. C'est un peu cette perspective-là que j'ai voulu donner la semaine dernière lorsque j'ai parlé de la conférence Sola. Je vous l'ai dit, la moyenne de la grosseur des églises aux États-Unis est 60 à 80 personnes. Donc, on est une très grosse église ici. D'accord? Pour le Québec, On est une église gigantesque. Gigantesque. C'est ça la vérité. Et il y a des privilèges avec ça. On a des ministères à l'enfance, on a des activités pour la jeunesse, on a un bâtiment qui nous permet de faire des activités, de recevoir, on a des petits groupes, on a un ministère de connexion avec la communauté à travers Beaufortus. Il y a toutes sortes de privilèges avec ça, mais il y a d'autres privilèges aussi. Ce sont ceux d'être une ressource pour les églises au Québec. Et donc, il y a littéralement des gens qui disent « Je vais envoyer quelqu'un être formé chez vous pour grandir. » Il y a des pasteurs qui nous contactent pour dire « Est-ce que je peux apprendre de vous pour pouvoir aller plus loin? » On est appelé à aller aider d'autres églises aussi. C'est un privilège qui nous est accordé. Et lorsqu'on est en train de donner à l'église, par exemple, à travers des dons financiers, on est en train de profiter comme ça de cette opportunité-là d'aider, de partager à d'autres églises, de pouvoir aider à l'extérieur. Et donc, tous les pasteurs qui travaillent avec nous, ceux qui sont rémunérés, ont tous une petite portion de leur temps qui est libérée pour servir à l'extérieur de l'Église. Parce qu'une Église de cette grosseur-là, ça veut dire qu'il y a une certaine maturité, un fonctionnement, et puis les pasteurs qui viennent travailler ici sont sollicités pour être dans d'autres organismes chrétiens pour les aider. Je travaille avec Sola, Luigi travaille avec le camp des Boulots, Miguel est impliqué à Sambec. D'accord? Et lorsque vous donnez, ben ça fait partie de ça. Parce qu'on est libéré pour faire ça. Pouvoir donner est une grâce et un privilège. 2 Corinthiens 8, 3, 5. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et donc, ces chrétiens-là de la Macédoine insistaient pour avoir le droit de donner. Il y a juste l'Évangile qui peut faire ça. Insistait pour avoir le droit de donner, parce que pour eux, c'était une grâce et un privilège de le faire. Alors ce matin, si vous retenez une chose, si vous ne donnez pas, je vous le dis, je vais me faire ramasser tantôt. Si vous ne donnez pas, en voyant cela comme une grâce et un privilège, ça ne vaut pas la peine de donner. C'est une grâce et un privilège de pouvoir donner. C'est ça qu'on m'enseignait au début de ma vie chrétienne, c'est toujours comme ça que j'ai donné. Pour moi, c'est une grande grâce, un grand privilège. Maintenant, cette série-là, on l'a appelée « Le risque de donner ». Le risque de donner. Puis ce message-là, cet exposé-là, on l'a appelé « Au risque de perdre Montréal ». On voulait vous faire réfléchir un petit peu, vous provoquer. « Au risque d'y perdre Montréal ». C'est fascinant lorsqu'on étudie le sujet du don, de donner dans les Écritures, presque toutes les personnes qui sont données en exemple sont des gens qui donnaient de leur nécessaire. M'avez-vous entendu? Presque toutes les personnes dans les Écritures qui sont données en exemple, ce sont des gens qui ne donnaient pas de leur superflu uniquement, mais qui donnaient de leur nécessaire. Il y a une tension. Paul, c'est pas pour rien qu'il est étudié pour la puissance de ses arguments. Il y a une tension super le fun dans ce passage-là. Pour un enseignant, c'est le fun au moins. Où Paul dit, laissez-moi vous parler des Macédoniens, des gens très généreux qui ont donné au-delà de leurs moyens. Quelques versets plus loin, il dit, mais il ne s'agit pas de vous mettre dans la détresse, simplement de donner de votre superflu. Intéressant, hein? Quand tu étudies les biens matériels dans les Écritures, quand tu l'étudies dans les enseignements de Jésus, quand tu l'étudies dans l'Ancien Testament, quand tu l'étudies dans le Nouveau Testament, tu es obligé d'en venir à associer la croissance dans la foi avec la notion de donner. Les deux sont indissociables. Je vais le dire comme ça. Quelqu'un qui ne grandit pas, d'accord, dans ce qu'il donne, se prive d'une opportunité incroyable de grandir dans sa foi. Et là, je suis gentil quand je le dis comme ça, d'accord? Mais quelqu'un qui ne grandit pas dans ce qu'il donne, vous êtes à la même place depuis 10 ans de vie chrétienne, probablement qu'il y a bien des domaines dans votre vie où on pourrait voir que vous êtes exactement à la même place où vous avez régressé. J'ai déjà partagé à l'église, je me suis fait mettre en pleine face dans un cours où c'était juste des pasteurs. Je m'en souviens très bien, l'enseignant Roger Ball, il dit « Hey, les pasteurs, vous êtes assis sur 10%, waouh, c'est génial, vous êtes une gang de légalistes qui n'avaient pas de foi. » Vous êtes des propres justes qui vous êtes assis sur votre petit 10% pour vous donner bonne conscience. Vous êtes censé grandir dans votre foi. Être des modèles qui grandissent dans leur foi. Et je suis parti de là avec des devoirs à faire. Chérie, il faut qu'on aille prendre un café ensemble. Chaque année, on va chercher à grandir dans ce qu'on donne. Chaque année, on va aller devant toi, Seigneur, on va chercher à grandir dans ce qu'on donne. Parce que je veux pas être légaliste avec ça, je veux grandir. Dans l'Évangile de Marc, il y a une dame qui est donnée en exemple, une dame âgée, puis je ne vais pas lire le passage, mais il y avait des gens riches qui venaient, qui donnaient, puis Jésus est assis là, puis il y avait comme un, il appelait ça un tronc, un espace, une boîte pour aller donner, puis Jésus est assis, puis il regarde les gens riches qui viennent, puis certains donnent des gros montants, puis ça se faisait comme devant tout le monde, puis ling, 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 wow! C'est beau. C'est très, très spirituel. Il y a une dame âgée qui vient, puis qui donne quelques pièces. Là, Jésus fait pause. Puis il dit, OK, les amis, ça, c'est un don selon Dieu. Parce que cette dame-là a donné tout ce qu'elle avait. Puis eux autres ont donné de leur superflu. C'est jamais combien tu donnes. C'est, est-ce qu'il s'agit d'un acte de reconnaissance? Est-ce qu'il s'agit d'un acte de foi? Est-ce qu'il s'agit d'un geste par lequel je dis, Seigneur, voici ce que je te donne, je veux t'honorer, Seigneur. Il y a quelques semaines, on est allé dans un passage, dans le livre des Proverbes, Proverbe 3, je vous ai dit, j'ai passé l'été dans ce passage-là, d'accord? À méditer. Et il y a cette idée qui est là, honore Dieu et Dieu pourvoira. Maintenant, il y a des pasteurs qui prêchent l'Évangile de la prospérité. C'est pas ça que je suis en train de vous prêcher ce matin. J'espère que vous avez compris ça. Évangile de la prospérité. Donne à Dieu, ton compte va doubler. Vide ton compte, tu vois, il va y avoir encore plus d'argent. Non, donne à Dieu, Dieu va pourvoir à tes besoins. Ouais, mais j'ai donné 1 000 $ parce que je voulais faire des vacances à Cuba cette année. J'avais besoin de 2 000, j'ai donné 1 000. Il va me redonner 2 000, on part à Cuba. Ah, on n'est pas dans tes besoins, copain. Il a décidé que tu allais grandir dans ta foi. Il n'y en a pas d'argent qui rentre. Dieu fait ce qu'il veut. Il pourvoit mes besoins. Bon, là, ce serait toute une conversation. C'est quoi nos besoins, hein? Ouf! Toute une conversation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de prêcher avec 2 bébelles? C'est utile! Est-ce que j'en ai besoin? Une autre question. Je donne pour honorer Dieu. Je vais terminer avec ça. Je donne pour honorer Dieu et grandir dans ma foi. C'est pour ça que je donne. Puis c'est important pour moi de l'adresser avec vous parce que je crois profondément qu'on a besoin de grandir dans notre maturité. Fait que si j'arrive à la question qui tue, on pourrait avoir un jeu de lumière ici. Combien un chrétien doit donner? Un chrétien, ça donne combien? 1%, 2%, 3%, 6%, 10%, 15%, 20%. Un chrétien, ça doit donner combien? Un chrétien, ça doit rien donner. Vous m'avez suivi? Un chrétien, ça doit tout donner son cœur à Dieu. Mais si tu vas juste par devoir, donne pas une scène de grâce, on n'en a pas de besoin pour ça. Un chrétien, ça donne combien? Un chrétien, ça donne avec générosité. Fait que là, le gros débat, c'est est-ce qu'un chrétien devrait donner 10%? Dans la Bible, il y a 10% dans la Bible, on voit ça constamment. Je vous l'ai dit souvent, je vais vous le répéter. Personnellement, là, j'en fais pas une loi, d'accord? Je crois pas que le Nouveau Testament me permet de faire une loi avec donner 10%. Moi, mon épouse, moi, quand je lis les Écritures, j'ai de la difficulté à voir qu'un chrétien déciderait de donner moins que ça. Mais je vous l'ai dit, donner par devoir, donner rien. Mais j'ai de la difficulté à voir ça parce que c'est comme une constante à travers toutes les Écritures. Avant la loi, après la loi, il y a ce concept-là qui revient. Et pour moi, personnellement, puisque je vois ça comme une opportunité de rendre grâce, puisque je vois ça comme une opportunité de grandir dans ma foi, je m'assoirais avec Esther et je dirais, OK, on veut grandir dans notre foi, on va donner quoi? 1%. Je suis crampé en deux, là. On va donner quoi pour grandir dans notre foi, vous comprenez? Puis moi, je me suis converti, j'étais étudiant, fait que je faisais quoi? 8, j'avais une bonne job, 8, 10 000 $ par année comme étudiant. J'avais une bonne job à l'époque, imaginez. Converti, je dis, aïe, 10 000. Donner en bas de 1 000, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, je renonce à combien de sorties, là? OK, 10 000, pas de problème. J'ai un reçu pour fin d'impôt qui me remet, si je paye de l'impôt, d'accord? Si je paye de l'impôt, on s'entend. Si je dois, qui me remet 50 % de ça. On n'est même pas là. Fait que vous calculerez pour piquer combien il a donné pour de vrai, combien il va donner pour de vrai avec ses reçus. Je ne suis pas capable de le voir autrement que ça, parce que je le vois constamment à travers les Écritures. Puis un élément qui me préoccupe vraiment, c'est que je sais que les jeunes donnent beaucoup moins. Ça, c'est factuel. Les jeunes donnent moins encore. Ça, c'est quelque chose qui me trouble, pas parce que je suis inquiet. C'est Christ qui bâtit son Église. Si je suis encore ici, c'est parce que je sais qu'il va faire mieux que ce que moi je peux faire. C'est lui qui bâtit son Église, il n'y a pas de problème. Mais les jeunes donnent moins. Pas seulement pendant que vous êtes aux études, quand vous êtes professionnel. Et donc, la réalité, c'est que l'œuvre québécoise dans les églises évangéliques n'est pas supportée par les jeunes de 18 à 35 ans. Puis elle n'est pas supportée par les retraités. Elle est supportée par plein de gens qui sont au summum de leurs dépenses. D'accord? Lorsque ça te coûte le plus cher, mais qui ont une conviction de donner généreusement. Les jeunes, ce n'est pas là encore. Ça me trouble. Ça me tracasse. Parce que je veux vous voir grandir. Puis je pense que vous commencez à me connaître, vous allez m'avoir dans votre face. Parce que je veux vous voir grandir. Fait que prenez la décision quand vous êtes jeune, pas quand vous allez avoir deux enfants à l'université avec une maison à payer, un auto à payer, puis deux autos à payer. C'est pas le plus facile de décider là que tu grandis. Faites-le quand c'est simple, allez-y avec foi, puis grandissez. Donner doit être une opportunité de grandir au risque de donner plus que de mon surplus. Parce qu'autrement, il n'y a pas de croissance dans ma foi. Comment est-ce qu'on grandit dans le service? On grandit dans le service en faisant des pas de foi pour aller servir un endroit où Dieu semble nous appeler, mais on n'est vraiment pas convaincu de faire l'affaire. En fait, quand quelqu'un arrive et il dit « Hey, moi, je fais l'affaire, man. Va t'asseoir, j'ai pas besoin de toi, tu me fais peur. » On veut juste du monde qui ne sont pas sûrs d'eux, tu sais, à quelque part. Mais c'est comme ça qu'on grandit. C'est la même chose avec donner. D'accord? Alors, je termine avec une illustration personnelle. Une bonne partie de l'Église le sait parce que vous étiez présents. Et il y a une espèce de tension pour le pasteur parce qu'on donne humblement et secrètement. Puis en même temps, toute ma vie doit être un exemple. D'accord? Alors, puisque c'était public, je le fais. Il y a quelques années, on arrive au début de l'année, ça faisait quelques années qu'on avait des déficits financiers. D'accord? On commence l'année, porte dans mon cœur le fardeau de voir l'Église grandir, d'être un modèle, de pas être un fardeau pour l'Église. Au début de l'année, dans mon cœur, dans la prière, je dis, je pense que j'ai le goût de donner 3 mois de salaire. Travailler 3 mois sans être à la charge de l'Église. Je commence à figurer, tu sais, puis je dis, ouais, OK, on pourrait s'arranger, tout ça. On ne parle pas tout de suite à ma femme. Les gars, faites pas ça, s'il vous plaît. Priez une couple de semaines avant d'aller voir votre épouse. Dieu m'a dit. Digère ton lunch avant de dire que Dieu t'a dit, puis prie. Plusieurs semaines après, je m'en vais voir à stage. Je dis, chérie, j'ai quelque chose, ça part pas de ma tête. C'est là. J'aurais à cœur ça, tu sais. OK. Maintenant, c'est j'ai su que c'était la mienne en priant ensemble lorsque je l'ai entendu prier. Fait que je savais qu'elle pouvait aller prier avec ça aussi. Fait que elle s'en va prier avec ça. Puis là, elle a dit, où on va prendre ça? Comment on va faire ça? Ben c'est ça que ça veut dire. Ah oui, OK, on va prier là-dessus. Quelques semaines après. OK, si Dieu te convainc, je suis prêt à le faire. C'est beau. On continue à prier ensemble. On ne parle pas aux anciens parce que je connais les gars. Ils vont comme, arrête Yannick, tu n'as pas d'affaire à faire ça. C'est quoi tu veux faire? Là? Tu veux comme nous faire une clé de bras? C'est quoi? On a des vraies conversations au conseil. Hein? Les gars, ils me connaissent. Je sais pas, les gars ont une meilleure mémoire que moi sûrement. Peut-être au mois d'avril ou mai, je m'en vais voir les gars au conseil puis je dis, les gars, conviction sur mon cœur, les 3 derniers mois, vous ne me versez pas de salaire. Ah, come on! Une longue conversation avec les anciens. Finalement, les gars le disent, c'est ma conviction, tu sais. Vous voulez me faire pécher? Vous voulez me faire pécher si je ne peux pas suivre ma conviction? Puis finalement, c'est ça qu'on a fait. Puis Dieu a pourvu, puis Dieu s'est occupé de nous, puis le Seigneur est fidèle. C'est pas à ça que ça sert. L'argent que je mets de côté, c'est pas pour ça. C'est pour être sage pour l'avenir. Mais Dieu peut n'importe quand m'interpeller, puis me remettre en question, puis me demander de grandir dans ma foi, puis dans ma générosité. Alors voici ce que je place devant vous. En terminant. Allez dans la prière. Allez dans la prière en lisant 2 Corinthiens 8 et 9. Allez dans la prière en considérant ce que l'Évangile vous enseigne. Allez dans la prière en demandant à Dieu, « Seigneur, est-ce que je grandis dans ma foi? Est-ce que je donne par reconnaissance? Est-ce que je suis en train de t'honorer avec ce que je donne? Est-ce que tu m'appelles à grandir davantage dans ma foi? Est-ce que tu m'appelles à te donner davantage? Vous êtes mariés? Soyez gracieux envers l'autre. Ce n'est pas parce que tu as une conviction que tu peux arriver et brasser tout le monde. Des fois, on a des questions difficiles. Des gens viennent me voir et ils me disent, « Yannick, mon époux, mon épouse n'est pas chrétienne. » Puis j'aurais à cœur de donner, même généreusement. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Cette semaine, je suis en train de prier. Puis voici le conseil que je donnerais. Je dirais, ben, OK, commence à semer l'idée suivante. Que tu voudrais que vous soyez un couple généreux. Tu auras à cœur que vous donniez 10 % Soyez généreux. Bon point de départ. Puis dis-lui, quand tu vas être convaincu, là, tu vas choisir la moitié, 5 % à quelle œuvre on va donner, puis je vais choisir l'autre moitié. Ça te va-tu? Puis on va être fiers d'être un couple généreux. C'est des belles valeurs que les Québécois vont endosser aussi. Et voici ce que je vous demande de faire pour que vous grandissiez dans la foi, pour que vous grandissiez dans l'Évangile. Quand on vous parle d'être centré sur l'Évangile, c'est ça que je fais ce matin. Je vous demande d'aller dans la prière, devant Dieu, puis dire, « Seigneur, je veux apprécier davantage encore ce que tu as fait pour moi en mourant sur cette croix. Je veux t'honorer et je veux grandir dans ma foi. Montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à donner. » Puis faites un pas de foi. Faites un pas de foi pour grandir ensemble. Et devenir une église mature qui rentre dans son appel, qui est d'atteindre Longueuil, de servir les églises au Québec puis de supporter des œuvres à l'extérieur. On va prier ensemble. Père éternel, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, tu t'es donné entièrement. Tu dis ailleurs dans les lettres aux Corinthiens qu'on vit non plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, Seigneur. Seigneur, je te prie pour notre assemblée. Je te prie pour ceux qui sont sans emploi. Je te prie pour ceux qui disent « Je voudrais donner, mais... » J'ai rien à donner. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui cherchent un emploi. Je te prie pour ceux qui sont écrasés par les dettes, qui gèrent mal leurs finances depuis des années. C'est un sujet de honte profonde et ils sont mal pris. Je te prie, Seigneur, de venir les rejoindre eux aussi. De les conduire vers des frères et sœurs qui vont les aider à grandir, à avoir des finances saines. Et je te prie pour toute l'Assemblée, Seigneur. Viens faire de nous, un peuple qui donne avec reconnaissance, Seigneur, avec générosité, Seigneur, et qui puise cette générosité-là au cœur même de l'Évangile. Viens faire de nous un peuple qui grandit, Seigneur, dans sa foi, qui grandit dans sa maturité spirituelle. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.